Julien Marc, c'est Louis Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le show rouge, direction Monday Night Raw, où nous sommes le 24 octobre 2022 à Charlotte, en Caroline du Nord, au Spectrum Center. Corey Graves et Kevin Patrick sont aux commentaires. Et pour cette analyse, j'ai avec moi un guest host exceptionnel, puisque je me demande bien si c'est pas notre premier duo inédit ensemble. Géliel, salut Géliel.
Salut IRM. Eh bien écoute, peut-être effectivement le premier duo, et en plus moi ça doit faire exactement 17 ans que j'avais pas reviewé un RAW, donc je suis très content de revenir pour reviewer un RAW, voilà.
Oui, donc le règne de Roman Reigns, c'est de la gnognotte à côté de ça.
Ah, rien à voir, rien à voir. On est sur un autre niveau là.
17 ans invaincu parce que il ne fait aucun match. C'est vrai, si tu veux avoir une streak d'invincibilité, il suffit de ne jamais combattre.
Exactement.
Et ça, tu l'as.
C'est de la connerie ces Open Challenge, c'est un truc à perdre.
Bon, on parle d'Open Challenge, on parle d'opener et l'opener. Évidemment, on a l'habitude, hein, mon bon Géliel, c'est le Judgment Day. Ouais. Je crois que le jour du jugement arrive bientôt parce qu'ils sont là quasiment tous les jours justement.
Ouais, et on en parlera, mais je trouve qu'il commence à prendre de l'épaisseur et ça devient très sympa.
Rentrée est toujours aussi cool, ils sont toujours bien sapés, ils ont tous trouvé un petit peu leur place finalement dans ce groupe qui ouvre les weekly quasiment chaque semaine. Ils sont partout et ils vont évidemment nous partager leurs états d'âme. On a Rhea Ripley qui nous rappelle que AJ Styles, la semaine dernière, il a bien compris que c'était Judgment Day qui gérait les affaires au show rouge, au Monday Night Raw, que Dominique, c'est un homme, un vrai, hein. On continue, Géliel, dans le...
Exactement.
Dans le passage à l'âge adulte de Dominique, sous la cape de Rhea Ripley, qui a pris sous son aile le fiston de Rey Mysterio. Damien Priest qui sort sa grosse voix pour demander au public d'acclamer et surtout de se lever. Je sais que Géliel, tu étais déjà debout, il n'y a pas besoin de te demander pour t'agenouiller. Il faut être debout pour s'agenouiller devant le plus grand luchador de tous les temps, Dominic Mysterio. Alors là, si tu veux faire de la hit de dingue, je pense que là, il n'y avait pas meilleure réplique de la part de Damien Priest. Grosse huée, Dominic prend le micro. À ce moment-là, le Spectrum Center va exploser. Hein. D'ailleurs, il dit que Judgment Day, c'est les seules personnes qui ont cru en eux et que, tout simplement, Dominic Mysterio dit... Enfin, voilà, on dit souvent que Dominic Mysterio est peut-être Eddie Guerrero de cette génération, mais pire encore, il dit que Eddie Guerrero était le Dominic Mysterio de sa génération. Scandale.
Ouais, et là, pareil. Hein. Oh hit là là, facile, oh mais hit mérité.
Ouais, quand j'ai entendu ça, j'étais « Mais oui, voilà, Dominique, on t'aime, on te déteste, on t'aime. » Zee aussi débarque, qui disent « Ouais, Dominique, t'es stupide, tu ressembles plus à... Tu es plutôt le James Ellsworth de cette génération.
»
L'homme sans menton, on ne l'oublie pas, hein, James Ellsworth, tous les 6 mois, on a droit à une référence. Il a remarqué de son empreinte la WWE, finalement, c'est James Ellsworth. Et ce soir, Karl Anderson va affronter Finn Balor dans un match qui a duré très longtemps. Après tout, Karl Anderson est un champion du Japon, même si, si j'ai bien compris, là, Géliel, il y a un peu de bisbille avec la NJPW. Karl Anderson, il est champion openweight, il me semble. Oui, c'est bien ça. Et du coup, il y a du grabuge, mais il y a aussi du grabuge entre les cordes, entre les deux hommes qui se connaissent bien, puisque Finn Balor a créé le club... Le fameux club dont on parle souvent sans vraiment dire exactement son nom, Karl Anderson fait partie des premiers membres de ce club qui avait été créé justement au Japon. Du coup, les deux hommes se connaissent bien dans un match qui va durer quand même plus d'un quart d'heure, hein, mon bon Géliel. Je ne sais pas si tu as le chrono complet, mais ça...
Non, mais c'est bien ce ressenti-là. C'était vraiment un vrai bon match qui a bien duré.
17 minutes et 0 secondes. Comme ça, ouais, c'est pas qu'une impression, hein. Ce n'est pas qu'un sentiment d'insécurité qui est entre les cordes ce soir à Charlotte. C'est bel et bien des matchs comme Triple H les aime, un match très technique, un match qui va durer donc 17 minutes et 9 secondes avec ce bon vieux Anderson qui se concentre, hein, sur la jambe de Finn Balor. ça n'empêche pas Finn Balor de faire un gros comeback et d'aller obtenir la victoire bien méritée pour le Judgment Day. Qui gagne, qui n'arrête pas de gagner, mon bon Géliel, grâce notamment à ce low blow de Rhea Ripley dans les coucougnettes d'Anderson, ce qui a permis donc à l'Irlandais de faire la couverture. Mais au passage, on parle de Rhea Ripley, mon bon Géliel, il va falloir, je pense, commencer à se poser des questions sur l'intergender à la WWE, puisque Rhea Ripley a quand même placé un énorme body slam sur le gallows, qui avait d'ailleurs placé une grosse big boot à Priest. C'est un peu le bordel hein, sur la table des commentateurs. Tout le monde s'est retrouvé justement sur la table des commentateurs. C'est juste après le... C'était après le match peut-être. Non, c'était pas pendant le match.
C'était pendant le match, c'était pendant le match justement.
Ah ouais, et qui avait donc permis la victoire du Judgment Day. Mais alors là, ce body slam de Rhea Ripley, mon beau Géliel.
Impressionnant quoi, impressionnant. Et je suis super content pour Rhea Ripley qui, pareil, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que le Judgment Day, là, ils sont en train de, avec l'ajout de Dominique, je trouve qu'ils sont en train de rentrer dans une nouvelle phase. Ils sont sortis de la rivalité pour le moment hein, avec Edge. Enfin, on le voit plus quoi sur cet aspect-là puisqu'il est parti plutôt ailleurs. Enfin, pour le moment, on le voit pas. Je trouve que entre l'intro, comme tu l'as dit, ils ont trouvé leur style vestimentaire aussi. Et ils ont trouvé un niveau de élitude qui est quand même maintenant très très sympa. Et puis ça overbook dans tous les sens. Mais c'est exactement ce qu'on attend d'une faction qui est présente ringside quoi. Il y a pas d'autres mots. Et puis alors du coup bah le combat moi je l'ai trouvé très sympa. Il y a pas une seconde qui m'a paru en trop, donc c'était vraiment bien, surtout parce que justement ça attirait l'œil à gauche à droite, il y avait tout le temps des distractions qui étaient très sympas. Et puis effectivement Rhea Ripley alors ça se fait en deux fois, elle chope Luke Gallows et on sent qu'au moment où elle appuie sur les jambes, il y a un petit moment, une demi-seconde où on se dit bah non, ça va pas le faire. Si, elle le soulève et bam, un énorme body slam, hyper impressionnant. Et puis derrière, ça enchaîne avec le low blow, la victoire de Baylor, la victoire totale du Judgment Day. Super opener. En plus, avec toute la partie un peu promo qui avait lieu avant, d'une part le Judgment Day, puis l'arrivée des aussi. Dans la foulée, super opener et qui se termine avec un moment de bravoure assez impressionnant. Et du coup, elle participe. Alors, c'est des matchs effectivement qui sont des matchs masculins. N'empêche que via ses petites actions entre le low blow et puis le body slam, elle montre qu'elle est complètement là, quoi, et que là, ça part dans la victoire, quoi.
Ouais, on pouvait s'inquiéter. Cette première partie. Moi aussi, je te rejoins. C'est vrai qu'on pouvait s'inquiéter au début de cette rivalité. Je me souviens la première séquence où les deux s'étaient un petit peu rentrés dedans. Elle s'était fait très discrète, quoi. Et tu te dis, Rhea Ripley, c'est pas parce que c'est une fille. Au contraire, elle est du genre à rentrer dans le tas. Et là, elle nous l'a prouvé. D'ailleurs, elle nous l'a reprouvé un petit peu plus tard en coulisses. Parce qu'ils étaient à l'infirmerie ou je ne sais où. Et puis, attends, mais Rhea Ripley, quand même, elle t'a fait un body slam, mon gallows. Parce que l'autre, il fait, ouais, j'ai une solution. Je sais gérer les femmes. Je vais gérer tout ça. Il revient un petit peu plus tard en se tenant les parties intimes et puis il fait le meuil aussi. Et Jessel dit qu'on a un vrai problème, real problem, un RIA problème, quoi. On a joué un petit peu sur les mots et tout le monde est d'accord. Et du coup, là, tu te dis, mais est-ce que ça va vraiment tourner autour de RIA Ripley, là, cette affaire? C'est très très intriguant.
Ouais, très très sympa en tout cas.
On enchaîne ensuite, on continue avec Austin Theory contre Mustafa Ali, je survole la partie la plus importante de la soirée carrément, puisqu'on a eu aussi on parle de beaucoup de retours, chaque semaine il y a des retours montés, c'est assez incroyable. On a le Miz qui vient nous parler un petit peu de sa rivalité avec Dexter Lumis. Hein. D'ailleurs, on a des nouvelles de Tommaso Ciampa. Où on essaie d'en avoir en tout cas des nouvelles de Tommaso Ciampa, qui visiblement est tourmenté. Il n'arrive pas à dormir, il n'arrive pas à trouver le sommeil. Pardon. Johnny Gargano débarque et dit, mais attends, Miz, tu racontes que des conneries. J'ai Ciampa au téléphone. Alors on veut bien le croire, hein, puisqu'ils ont des potes. D'ailleurs, amusant, hier soir, Pendant que j'étais en train de préparer à manger, j'ai lancé une network et je suis retombé sur ce match qu'ils avaient fait entre les deux pendant la période Covid. Tu sais, le match de 40 minutes qui devait mettre un terme à leur rivalité, qui était dans un vieux
Oui.
hangar avec Triple H au début, qui leur dit, bon bah voilà les gars, je veux que ça se termine. Voilà, une fois que je quitte le hangar,
Exactement.
et à la fin, il y a eu un peu le heel turn total du couple Gargano face à Ciampa. Bref, les deux hommes se connaissent, donc on veut bien croire que Johnny Boy a eu des nouvelles de Ciampa, et visiblement, il a un petit souci à la hanche. Voilà, il se fait vieux un Ciampa hein, quand même. Il est plus tout jeune, il est plus tout frais. En gros, Miz nous raconte des conneries. Il n'est pas honnête, il ment. Je ne sais pas pourquoi, il nous ment, mais il nous ment. Il veut pas la vérité. Et en parlant de vérité, qui c'est qui débarque? La vérité,
Ouais.
R-Truth. Qui arrive, qui débarque et qui commence à faire le clown, évidemment, le what's up et tout, dans tous les sens, la foule mort à pleines dents, un mec qui va être triple Hall of Famer, là, notre
Ouais.
R-Truth. Il a déjà
Et
son ticket.
qui a encore du grand écart en lui, hein, comme on dit,
Vu ça,
quand
je
même
pense que là, il pourrait
profond.
nous le faire encore à la maison de retraite si jamais un jour il prend sa retraite.
Ouais.
Parce que je pense que lui, la retraite, c'est pas à 65 ans, c'est à 80 balles pour
Et il lui manque des annuités, je crois, c'est pour ça en fait.
R-Truth. Oui, effectivement, il y a des moments, il y a des trimestres où il n'a pas trop cotisé hein, aussi.
On l'a pas trop vu, non, ouais, c'est
Bon,
ça.
voilà, ça balance quelques blagues. Entre tout ce beau monde. Et puis, parce qu'il nous explique voilà, que quand on appelle la vérité, c'est lui qui débarque. Et notre ami R-Truth, qui embarque et qui tout simplement provoque un match. Hein, c'est lui qui provoque le match contre le Miz, il me semble. Et puis un match que le Miz va perdre, un match que le Miz va perdre, mon bon Gilial, puisqu'à un moment donné, quelqu'un apparaît dans le public, quelqu'un qui est masqué, et on se dit, bah tiens, c'est peut-être notre ami Dexter Lumis, et ben non, c'est pas Dexter Lumis, c'était Johnny Gargano, mais ça suffit à effrayer le Miz pour que R-Truth place tout simplement un petit roll-up, je pense qu'il avait placé
Petit
en fin
roll-up
de
des
match,
familles, exactement.
le roll-up d'Halloween, mon bon Gilial, pardon.
Exactement,
Et
exactement.
ouais.
Bon, le match a été quand même un peu expédié. Alors, toute l'intro avec Johnny Gargano, Ciampa, enfin, pas. Enfin, aussi avec toute la référence, quoi, avec Ciampa plus le. Alors, c'est intéressant, ça fait quand même de. Ça entertain, hein, y a pas à tortiller, mais je sais pas trop où est-ce que ça va aller, surtout pour déboucher sur un match avec R-Truth, qui fait le taf, il hein, y a pas à tortiller, ça fait le taf, il est rigolo, et puis en plus, il arrive sur cette distraction de cet homme qui était encapuché ringside. Ça arrive à faire la distraction et à faire la victoire sur un roll-up sur le Miz. Voilà, donc Johnny Gargano est bien là, il est ringside, et du coup, bah, ça va lancer certainement le truc. Mais j'aurais aimé une petite interaction physique en fait, puisque même s'il a perdu sur un roll-up, ça, il aurait pu aller un peu plus loin ou peut-être être un peu plus présent Gargano. Je sais pas, on verra, on verra.
Ouais,
En tout cas, le
bon,
segment était plutôt rigolo, quoi.
bah... bon, on va recroiser pas mal de fois Gargano, hein, de toute façon, tout au long de la soirée, notamment en mise Gargano qui se recroise, et Gargano qui, visiblement, connaît la vérité et veut faire parler le Miz. On n'en sait toujours pas plus hein, dans cette histoire, le Miz qui partira un petit peu frustré de l'arène. Et on a une petite transition. Alors du coup, hein, je compte sur toi pour m'épauler dans mes voyages dans le temps, parce que je me laisse emporter, puisqu'à ce moment-là, JBL, mais c'est ça que j'aime bien aussi dans ces weeklies, c'est que le monde se croise, et on a JBL et Baron Corbin qui débarquent, et on sait que JBL déteste Gargano, mais genre de tout son être. Gargano, c'est le héros des fanboys sur Internet. Ici, c'est la Big League. On n'a rien à faire ici. C'était l'attitude era Gargano. Il serait dans les vestiaires en train de transporter les sacs et faire les sandwichs pour les vrais costauds, les vrais bonhommes. Et puis Gargano commence un petit peu à insulter tout, enfin, à pas se laisser faire et à insulter tout le monde et demande à Corbin, enfin, commence à provoquer Corbin Et on book un match tout simplement entre Gargano et Baron Corbin, dont on se demande encore quel est son vrai prénom, Baron ou Boring Corbin, comme il l'appelle. Alors ça,
Exactement.
c'était pas très sympa. Le match a eu lieu un petit peu plus tard dans la soirée avec JBL
Oui.
qui était au commentaire, même si avant
Ah, il
de
nous a
faire une
fait une belle
petite
intro,
belle
bien,
intro, ouais.
bien heel aussi, JBL, hein, en se foutant de la gueule des gens de Charlotte, puisque ça se passait à Charlotte ce soir. Et puis non, bah, il a été bien. Tu veux enchaîner sur le match ou tu veux reprendre le fil? Je sais pas comment tu veux
Non,
faire.
non, mais on va parler, on parle de tout. C'est le total package de JBL. Tu l'as dit, on a une belle promo de JBL là, qui nous fait toujours une belle hit auprès de Charlotte et puis qui annonce le Wrestling God de la moderne era, Baron Corbin, qui a changé de futal. Hein. Il est un petit peu mieux, il a arrêté les pantalons couleur chair. Bon, j'ai dit, il a reçu ton petit texto de Fashion Police, là, je crois.
Ah oui, c'était le dernier avertissement. Et il l'a pris en compte.
Le combat qui aura vu la victoire du Baron, une belle victoire avec son End of Day sur Gargano. Entre-temps, Gargano aura provoqué JBL en lui piquant son chapeau de cow-boy et en plaçant en plus un gros tornado DDT là dans la foulée sur Baron Corbin. Mais JBL est intervenu physiquement, JBL pendant le match, il a tiré la jambe du pauvre Gargano qui est tombé et qui s'est bouffé. Donc le End of Day, cette magnifique prise de finition de Baron Corbin et une belle victoire là du Baron, ça fait plaisir.
Ouais. Et puis le match était très sympa. J'ai trouvé Gargano très en forme, très affûté. Il y avait de quoi passer. Mais maintenant, l'association en Corbin JBL est plutôt sympa. Je trouve que ça marche pas mal. J'ai bien aimé le moment où Gargano a pris le Stetson de JBL pour s'amuser avec. On se demandait ce qu'il allait faire, s'il allait marcher dessus ou se torcher avec, ou bref, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu un petit moment de distraction qui était assez sympa. Et puis, bah, effectivement, le Corbin qui gagne avec une intervention bien méchante de JBL. Non, sympa, moment sympa. Je ne sais pas si ça va repartir là-dessus derrière ou pas, mais en tout cas, voilà, le combat, j'ai trouvé sympa parce que Gargano j'ai trouvé très en forme.
Ouais, il a fait parler sa vitesse, sa rapidité, mais bon, il se
Ouais.
faisait cueillir des fois par une bonne droite dans la tronche. Il s'est fait balancer sur la table des commentateurs. Donc, bon, bah écoute, hein, on a quand même le jeu vivant de la lutte professionnelle face à soi. C'est un petit peu compliqué d'aller
De
chercher.
l'ère moderne, de l'ère moderne.
Et de l'ère moderne, évidemment.
Oui,
Mais
voilà.
Baron Corbin est un homme moderne. Bon,
Exactement.
un dieu moderne. Un dieu moderne.
Oui.
Un dieu moderne. D'ailleurs, en parlant de Gargano, eh ben, Madame Gargano, Candice LeRae, a eu une interview. D'ailleurs, c'est très drôle. Leurs séquences s'enchaînent très souvent. Comme ça, je pense qu'ils peuvent repartir ensemble. Tu sais, ils prennent la douche, et puis hop,
Ouais.
allez, tu fais chauffer le moteur, j'arrive.
J'ai fini dans 2 minutes.
Petite interview de Candice LeRae, voilà, on parle du retour, que c'était pas évident. Hein, ils étaient partis tous les deux, le couple était parti biberonné pendant plusieurs mois. Puis quand elle est revenue à Raw, elle a eu le droit. Alors ça me fait toujours le soutien d'Alexa Bliss, Bianca Belair, Asuka. Donc ça me fait toujours marrer là, ce name dropping de Babyface. On hoche la tête, oui, bien sûr, c'est ça.
Poliment.
Damage Control débarque, on arrête l'interview. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Bayley dit que voilà, c'est nous qui allons poser les questions. D'ailleurs, on s'en fout parce qu'Asuka et Bliss, elles ne sont même pas ici. C'est vrai, où sont-elles? Où sont Asuka et Alexa
Ah
Bliss? On en parle, mais on ne les voit pas beaucoup. Voilà. Elles sont toutes sur la touche, là, comme Becky Lynch. Il ne reste plus personne de legit, hein, finalement, dans cette division féminine de Monday Nitro. Oui, on est d'accord, hein, Bayley, ce que je te dise. Elles foutent le
elle a raison.
bordel. Et puis, les deux commencent à attaquer Candice LeRae. D'ailleurs, c'est très drôle. Elle pousse le caméraman. Alors, ça me fait marrer parce que c'est rare que les caméramans sont souvent invisibles ou hors de l'univers
Oui,
WWE.
exactement,
Et là, tout d'un
exactement.
coup, pour faire leur coup en douce, elles attaquent le pauvre caméraman qui se retrouve propulsé. Et du coup, Candice LeRae se fait passer à tabac. Qu'est-ce qui se passe là? On ne peut plus travailler. C'est un environnement de travail dangereux à la WWE.
Et du coup, elle est pas contente, Candice LeRae.
Non, pas contente
Et
du tout.
pas contente et du coup bah elle se comment enfin on voit qu'elle commence un peu à se revenir à se rebeller contre notamment Bayley en se foutant un petit peu d'elle hein, en lui disant que quand même malgré le retour bah elle a toujours rien gagné et qu'il n'y a toujours rien du tout autour de sa taille, entre autres. Voilà.
Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. D'ailleurs, Bailey qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans la soirée. Pour le match de main event, on ne voit pas Candice LeRae, je crois, hein, lors de cet épisode après.
Non, non, non.
On la bat, la pauvre, en même temps, elle était un petit peu passée à tabac ouais. Pendant cette séquence. Austin Theory versus. Non, avant on a Elias.
Ouais,
on a
en coulisses.
En coulisses. Qui croise Riddle avec son bongo. Voilà, il lâche pas l'affaire, Riddle. Il prend des cours. Écoute, mon bon Riddle, mon bon Matt, mon bon Matthew, c'est sympa, mais je suis un artiste sérieux. Moi, quand je viens, je fais des concerts. Je veux être tranquille, j'aime pas être trop interrompu. Donc, bon, cette fois-ci, ça passe, parce que je sais que toi et mon frère, vous êtes poteaux. C'est n'importe quoi. On te crée des relations, c'est du gros n'importe quoi. Bon, en même temps, c'est
là, très, oui,
très, drôle, c'est très, très drôle. Mais bon, il faut faire oui, d'accord. Là aussi, on hoche la tête. Il se passe des choses.
Suspension d'incrédulité, hein, suspension totale d'incrédulité.
Des relations d'amitié dont on n'en voit pas jamais la couleur, donc on est obligé de les croire sur parole. Riddle, Matt qui nous fait une petite démo là de bongo, et Alpha Academy qui débarque pour se foutre de ces pseudo-artistes là, des arnaqueurs. D'ailleurs, ils n'ont toujours pas de nom d'ailleurs, hein, Riddle et.
Non.
Là,
non,
non.
Sur leur petit groupe là. Ouais. Leur duo.
Ouais. Alors Gable qui visiblement préfère Ezekiel, hein, parce qu'il dit je préfère ton frère parce que lui au moins il se rasait. c'est pareil, on hoche la tête hein, évidemment. Et donc la provocation entre tout ce beau monde
Donne
rendez-vous sur le ring avec Chad Gable qui accompagnait Otis contre Elias. Ouais. Un match entre les cordes avec Elias qui va remporter ce match tout simplement avec un bel enchaînement et qui place son neckbreaker pour aller chercher la victoire là pour le drifter, une belle victoire qui dans un match je sais pas la durée du match.
Ouais, il n'a pas été très long, hein. Je crois que c'était 5-6 minutes, je sais. Il n'a pas été très très long de tête. Ouais. Hein.
Matt Riddle est intervenu pour aider à débarrasser l'arène de la Alpha Academy. Gable qui est toujours super puissant, hein. Il fait toujours des moves incroyables, hein. Il va chercher des souplesses que si on en faisait une seule, c'était je pense 30 sessions de kiné et d'ortho pour toi et moi, je crois.
L'ostéopathe et compagnie.
Et l'ostéo, ouais, faut que je parle d'ortho. Bah, ouais. Si Ezekiel fait un concert, tu restes 2 heures à chanter avec Elias, pardon, tu te retrouves aussi à aller chez l'orthophoniste. Bon, bah voilà, écoute, on anime un petit peu la mid-card et puis Riddle qui est bien gentil parce qu'après avoir tutoyé les sommets, là, il vient faire le boulot pour Elias. On envoie toujours un petit main eventer finalement aider. Quand c'est pas Ezekiel, on envoie un main eventer pour aider Elias.
C'était pas mal et je trouve que Chad Gable, alors il est très clairement victime de sa taille, mais il fait vraiment vraiment le taf parce que comme tu l'as dit, il a un petit côté aussi high flyer, il a un petit côté très très musculeux, très très puissant, et puis au micro il sort souvent des vannes qui font mouche. Son association avec Otis, finalement, j'ai l'impression que c'est lui un peu qui prend le dessus, parce que le pauvre Otis est muet, on l'entend pas, et puis il a du mal à sortir de son rôle un peu de grosse brute qui au final se fait quasiment systématiquement contrer. Elias, Chad Gable, ça fonctionne bien avec effectivement le main eventer qui vient apporter du crédit à tout ça. Seul truc, c'est effectivement le petit Otis qui est un peu en dessous, enfin le gros Otis qui est un peu en dessous. Qui pourrait apporter plus qu'il ne fait actuellement. Mais disons, entre l'arrivée coulisse plus le déroulé du match, alors qu'il ne s'est pas fait dans le même temps, mais on l'a enchaîné pour compréhension, j'ai trouvé le moment assez sympa. Quoi. Assez sympa.
Ouais, ils sont tous très bien, là, tous les quatre. C'est quatre mecs qui savent faire du comédie en plus, assez facilement, tout en nous proposant du. C'est des, beaucoup d'athlètes. Bon, Elias, c'est dans un autre genre. Lui, c'est plutôt, c'est très classique. Mais là, il a pu nous montrer ce qui pouvait tenir un match avec, évidemment, à côté avec Chad Gable. C'est difficile de sortir un mauvais match. C'est assez incroyable. Et voilà, les quatre, ça fonctionne bien là, finalement. Et ça nous propose du fun. On anime bien cette mid-card. Là.
Ouais, c'est pas si mal parce que là on arrive un peu au milieu de show et du coup ça relance un peu le truc sur voilà, ça permet de maintenir ce RAW globalement quand même à flot.
Exactement. À flot, comme tu l'as dit. Je reprends le cours. Toi, ça m'apprend à faire des voyages dans le temps, mon bon Géliel.
Et
je fais des allers-retours.
Et on retrouve il y a Austin Theory. Maintenant.
Dont j'essaye de parler depuis le début de cette analyse, mais à chaque fois je me laisse embarquer. À chaque fois, t'as un mec qui passe en coulisses. Et, ah, excusez-moi, c'est le mec qui a du mal. 2 minutes, enfin 2 secondes d'attention. Les IRM, ça c'est sûr.
Mais non, je suis.
On a cette Rollins qui était à la table des commentateurs. Et ouais, toujours bien accueilli, toujours bien sapé, là, notre bon Seth Rollins. Théorie qui, d'ailleurs, dit qu'il ne veut pas trop perdre de temps avec cette histoire de Mustafa Ali. Donc, il veut régler cette histoire au plus vite. Mais Mustafa Ali, lui, il veut faire ses preuves. Il veut montrer qu'il peut aller chercher tout simplement Seth Rollins. S'il veut être le problème de Seth Rollins. Alors, quand tu veux être le problème de Seth Rollins, bah, il faut faire ses preuves. Il faut faire ses preuves. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas aussi facile. Il faut prouver que tu as ta place, parce que finalement, cette ceinture US, mon bon Géliel, c'est la big title picture dorénavant à Monday Night Raw.
Oui, carrément. Carrément, et en plus, elle est présente. Et puis en plus, il a toujours sa mallette, le bon Théorie. À un moment, il va falloir aussi cacher. Donc c'est bien qu'il soit aussi présent. Et j'ai l'impression qu'il change un peu. Ils l'ont un petit peu, depuis le départ de Vince, ils l'ont un petit peu... Alors, c'est pas un gros package, mais il est moins lisse, il est un petit peu mal rasé, barbu, etc. etc. On sent qu'il est en train d'évoluer un petit peu vers autre chose. Et j'étais pas un grand fan, hein, on en avait parlé plusieurs fois du style. Je trouve que s'il évolue vers quelque chose qui me plaît un peu plus. Je ne sais pas comment ça va aller, mais c'était peut-être aussi le fait qu'il soit poussé comme ça par Vince McMahon qui me proposait des aigreurs d'estomac. Mais en tout cas, je trouve que ça va un petit peu mieux.
Ouais, il a laissé tomber son petit bouc. Hein. Il avait le petit bouc. Là, maintenant, il laisse pousser aussi sur les côtés. Je l'ai remarqué aussi, toi, comme quoi on prête attention, hein, au look des superstars. Tout est important. D'ailleurs, en parlant de look, c'est Mustafa Ali qui a sorti le short, là. Et voilà le mec qui combat en short maintenant, Mustafa Ali. Bon, écoute, pourquoi pas, hein. Il a un nouveau t-shirt, un shirt, nouveau theme song, un petit repackage le temps de cette rivalité autour du titre. Est-ce qu'on doit dire titre secondaire? Non, hein. C'est le titre ultime, tout simplement, dans le show rouge, oui. Dorénavant. Écoute, un match solide entre les deux hommes avec le monsieur Money in the Bank qui fait parler sa puissance, hein, face aux natifs de Chicago, le High Flyer qui aussi déroule son offensive, et Theory qui bénéficie d'une distraction de Rollins sur Ali pour pouvoir l'envoyer sur le haut de la corde et placer ensuite son finisher pour la victoire, et après c'est la baston entre Rollins et Ali, et le champion US qui repart. Cette histoire n'est visiblement pas terminée, puisqu'on nous l'a annoncé entre temps, si je dis pas de bêtises, le match est annoncé pour officialiser pour Crown Jewel.
Oui, il me semble, oui, on a vu passer il me semble avoir vu passer la promo sur le match, ouais, effectivement. Et moi sur ce match, j'ai vraiment vraiment aimé. J'ai trouvé que globalement les matchs étaient d'un bon niveau là. Et ce Austin Theory Mustafa Ali était très bon. Il y a eu quand même des vrais bons moments. Mustafa Ali est quand même un vrai bon catcheur, qu'il soit bien utilisé ou pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est ça fait plaisir de voir in ring. Austin Theory il avait prouvé déjà des choses par le passé, même si c'était pas forcément toujours flamboyant. Là, c'était un vrai bon match. En plus, l'interaction avec Seth Rollins qui vient finalement coûter le match à Ali, et puis qui derrière enchaîne avec une rixe entre Rollins et Ali. Non, moi j'ai trouvé ça très bien, mais comme toi, voilà, on va voir ce que ça va donner ce match à Crown Jewel, en gardant en tête que généralement les rivalités lancées pour Crown Jewel, ouais, elles ont rarement du mal à dépasser le show. Donc on va voir si c'est juste un petit programme de 15 jours pour aller jusqu'à Crown Jewel, ou alors derrière ça va partir un petit peu plus loin. On verra, on verra.
Ouais, bon, ouais, c'est vrai que tu l'as dit, tu as raison, souvent ce qui se passe à Crown Jewel reste à Crown Jewel.
Oui, c'est un peu
y compris
ça,
les catcheurs quand les avions sont bloqués.
Ah oui, exactement, oui.
D'ailleurs, Rollins, ça m'a fait marrer, je me suis pas du tout rappelé, mais Rollins au micro a parlé de Theory en disant « ouais, je l'avais sous mon aile » tout au début de quand il était arrivé. Je me suis dit « mais attends, de quoi il parle ?» J'arrivais pas à me souvenir d'une période où Rollins avait pris Austin Theory sous son aile. Ça s'est passé à la période Covid, qu'on était au Thunderdome. Franchement, impossible de me souvenir de ça. Je suis pas sûr que ça ait duré très très longtemps, cette histoire. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que quand après il est allé sur le ring pour lever la main du gagnant, il l'a vite envoyé quand même au vestiaire. Hein. c'est moi la superstar.
On
a peut-être gagné le match, mais allez, laisse place au grand. Et puis une belle victoire là à Theory. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui n'aiment pas quand les porteurs de mallettes enchaînent les défaites. C'est vrai que c'est une mécanique qui s'enchaîne assez rapidement. À peine tu gagnes ta mallette que derrière c'est 6 mois de trou noir où tu enchaînes les défaites. Et là, sorti de nulle part, la belle victoire de Austin Theory, bah c'est ça, un nouveau look, nouvelle vie et puis nouvelle destinée.
Et même si effectivement il y a eu une petite aide, on va dire.
Bien sûr.
Ce qui
protège un peu Ali, on va dire, qui bouffe une défaite avant son match, même s'il y a encore il y aura encore un weekly, il y aura encore un Monday Night Raw avant le voyage en Arabie Saoudite. C'est vrai que voilà, il s'est mangé une petite défaite, mais il est vaillant, notre Ali. Et il va aller chercher la victoire. En tout cas, il y va pour la victoire. On a enchaîné avec un bon squash des familles. Omos qui débarque. Et il y a 4 bonhommes. 4 gars qui marchent.
Mon Dieu.
Qui sont allés chercher à la buvette.
ouais, c'est ça.
Et qui, du Exactement coup, c'était un 4 contre 1, en fait, ce match, carrément.
Ouais, c'est ça, hein, ça a été présenté comme ça. Alors après, ils étaient particuliers, les gars, mais c'était effectivement en termes de nombre, c'était ça.
J'ai reconnu des chroniqueurs de catch-up dans le lot. Hein. Si vous demandez où sont les autres, ils se remettent encore de ce moment difficile où Omos a tout simplement pulvérisé, détruit 4 bonhommes pour prouver que s'il peut en détruire 4. 4 hommes de 1m50, il peut détruire un homme de 2m10. Voilà. Lui-même faisant 2m30. Braun Strowman, l'underdog, dans une rivalité qui nous rappellerait presque Hulk Hogan versus André le Géant. Là, hein. Je ne sais pas si c'est l'idée derrière. Mais,
Ouais, mais il faudrait que... Il y a eu juste... quoi, il y a eu... C'était à SmackDown qu'il y a eu juste une approche où Omos a poussé... Braun Strowman, il n'y a pas eu d'autres interactions, il me semble, pour le moment, mais là on est en train de construire la rivalité, donc on est encore un peu en amont, donc pas de souci. Très drôle, hein, les jobbers locaux là, qui avaient une condition, hein, pour monter sur le ring, c'est qu'il fallait effectivement pas faire plus d'1m50 strictement. Donc c'est ce qui a été fait, hein, voilà. Et avec tous des têtes un peu. Enfin, ils m'ont fait marrer
cassée,
avec. Ouais, gueule cassée avec Catcher, ça faisait tout à fait 1990 avec les collants moulants, les trucs un peu bariolés avec les couleurs fun et fluo là. C'était quelque chose, hein, putain. Et donc Omos s'est effectivement fait plaisir. Hein. L'autre, il avait le poing plus gros, enfin Omos avait le poing quasiment plus gros que la tête d'un des gars.
Oui.
Grandiose, grandiose, grandiose.
C'est ça qui m'a fait penser justement à André le Géant, tu sais, qu'il avait posé sa main sur l'intervieweur à l'époque. Ah, j'ai oublié son nom. Enfin voilà, c'était une image mythique.
Hein, ouais, clairement.
Les grosses paluches là.
Donc 4 contre 1, voilà. Hein. Donc Omos continue à être construit. Bon, in-ring, je ne suis toujours pas hyper convaincu, mais en tout cas, ça marche. Et le bestiau est quand même. Parce que donner l'impression et faire de l'ombre à Braun Strowman et lui cacher le soleil, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent voilà, le prétendre.
Ah
Et
non.
vendredi à SmackDown, effectivement, ça a été intéressant. Voilà, bah, sympa, on va voir ce que ça donne. Mais c'était rigolo, hein. Effectivement, c'était un moment rigolo. Ça n'a pas été
Ah ouais.
long, mais ça a été rigolo.
Ah ouais. Moi, ça m'a fait marrer, quoi. Moi, j'aime bien qu'ils vont chercher des mecs qui ressemblent à rien, là, pour aller. Ah, mais des fois, ils vont te chercher des mecs qui sont de la scène indé et tout, machin. Mais non, il faut jouer la carte à fond et envoyer des mecs. Tu te dis, bah, attends, ils sont allés les chercher dans. Ils ont été réquisitionnés, les mecs, on est allés les chercher. Allez, je te donne $20 pour te faire détruire. Les mecs
Et tu
comme
vois
ça.
le gros là-bas, ouais, bah, il va te taper dessus. Allez, tiens, voilà tes dollars.
Je peux vous redonner les $20? Non, 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 tu les gardes. Tu en auras besoin pour payer. Non, c'est parce qu'avec $20, tu peux pas te faire soigner aux États-Unis, mais.
Ah non, non, non.
Le
Ça
mec,
peut être
c'est.
une mensualité sur 150 ans, mais c'est tout, quoi.
Ouais,
Voilà.
ils sont un petit peu fait arnaquer les pauvres. Mais bon, voilà, ils n'arrivaient pas à être aussi moches. Hein. C'est de leur faute. Et ben après tous ces sauts dans le temps, mon bon Gilial, je crois qu'on peut retourner direction de Main Event, là. Hein. Sauf si j'oublie quelque chose, auquel cas,
Non,
il
non,
faut me
non, non,
taper
non,
les doigts.
on l'a fait dans le désordre, mais on l'a fait. Et effectivement, on arrive quand même à la fin, parce qu'il y a une fin, et on arrive à ce main event.
Main Event, incroyable. D'ailleurs, je t'avoue que pendant le Main Event, y compris pendant le finish, je me dis, mais attends, c'était pour le titre ou pas? Parce qu'on a quand même un Bayley versus Bianca Belair, Gilles.
Ouais, carrément, carrément. Plus des
Voilà.
surprises.
Ça aura des surprises. Attire l'arigot, en veux-tu, en voilà. On avait évidemment Dakota Kai et Oscar qui accompagnaient dès le début hein, Bayley pour son match.
Ouais.
Donc, elles se
Elle était
connaissent
à la
bien
table.
dorénavant, hein, Bayley et Bianca Belair. Donc bah, ça se rentre vite dans l'art très rapidement. Voilà, une belle entente, si je puis dire, entre les deux catcheuses qui sont les main eventeuses tout simplement du show rouge. Hein, il n'y a plus grand monde, mais elles sont là. Bon voilà, un match qui a pas trop ralenti. Hein, on s'est envoyé coup pour coup. Et puis à un moment donné, Sky et Kai, ça, il faut bien le prononcer, hein, qui prépare la table des commentateurs. Mais c'est Bélien hein, qui se fait power bomber et qui se retrouve balancé dans le ring post là à droite à gauche. Elle est balancée dans tous les sens. Et championne tag team qui intervient pour tabasser Bianca Belair pendant que l'arbitre est distrait et occupé à autre chose, évidemment. Et là, tout d'un coup, on arrive à la fin du match. Bon, GL, et qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, et je trouvais que c'était super bien filmé. Moi, j'ai sauté de mon canapé hein, parce
Ah ouais.
qu'il se passait plein de choses, des gros coups de boute dans la tronche et tout. Là, c'était le gros bordel, le chaos.
Ringside, c'était.
Ah ouais, c'est le bordel. Et là, franchement, alors autant 90% du temps, les caméramans et les réalisateurs sont aux fraises et ils filment n'importe quand, n'importe comment, autant là, c'était super bien foutu puisque hors caméra, comme ça, hors champ, et débarque de nulle part.
Une
Corps,
brune avec des cheveux longs.
une brune avec des cheveux longs qu'on ne reconnaît pas à ce moment-là, parce
Bah
qu'elle elle est
ouais.
brune, mais elle compte pas pour des prunes, et surtout, elle s'est teint les cheveux un petit peu, changement de look. C'est le gros bordel, le crossbody sur tout le monde, avec Bianca
Sur Sky
Belair,
et l'arbitre.
et
L'arbitre aussi, il
l'arbitre,
était
oui,
au milieu du truc.
l'arbitre, c'est ce bordel. Bianca Belair qui se fait prendre par Bailey.
Non,
Hein,
non, non, non.
non, attends.
Non, non, d'abord,
Ils attaquent Bianca Belair. Elle attaque Bianca Belair.
Non, non, en fait, c'est Belair qui est acquis. Belair et Bayley sont sur le ring. Et elle fait le tomber, en fait,
Oui,
Belair.
il y en a un nouvel arbitre,
Mais il y
vite!
a. Et voilà, parce qu'il y a l'arbitre, vu qu'il s'est pris le crossbody, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne.
Ben non, évidemment qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus personne. Plus personne. Mais c'est quand même Bayley qui va remporter ce match lorsqu'un nouvel officiel débarque pour la victoire. C'est bien ça, mon bon GL? J'ai arrêté de dire
Non,
des conneries. Ouais, non,
je me
ben,
permets. Nikki, tout énervée, elle monte sur le ring à ce moment-là.
parce que
Il y
c'est.
a, euh, y a, y a Bayley qui est par terre, qui s'est pris le KOD de Bayley. Et il y a Nikki qui fait un énorme neckbreaker à Bayley. Et puis, qui s'en va derrière.
Eh oui, d'accord, eh
Mais non sans avoir mis la main de Bayley sur le bras de Bayley sur Bayley. Et en, juste avant de partir. Et du coup, le nouvel arbitre qui arrive, la nouvelle arbitre d'ailleurs qui arrive, qui fait le compte de 3 et qui donne la victoire à Bayley sur ce retournement incroyable de situation, avec de l'overbooking, des retours qu'on n'attendait pas, des rebuilds qu'on n'attendait pas, des rev bumps, bref, un main event qui est parti dans tous les sens.
Incroyable, donc la victoire de Bayley, évidemment, telle que je voulais raconter ou telle que j'allais vous la raconter, choisissez votre réalité, la mienne est très virtuelle, généré par de l'intelligence très 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 artificielle.
Oui.
En fait, je vais être honnête, c'est ce retour incroyable de Nikki Cross en plein main event qui m'a chamboulé, génial.
Bah oui.
Et quoi, ça s'est révélé à mes yeux avec, bah voilà, elle s'est fait une permanente déjà, hein. Elle a retrouvé visiblement cette folie qui l'animait dans sa période Sanity. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la division féminine à la WWE? Nikki Cross est de retour, puisqu'il ne faut plus l'appeler Nikki ASH. La blague a duré suffisamment longtemps, Géliel. On avait eu il se passait du grabuge hein, dans son équipe, dans son duo d'Écossaises, mais ça n'avait jamais rien donné. Elle avait jeté son masque, et puis après, ça s'embrouillait un petit peu backstage dans cette drôle de période où il se passait plein de trucs. Il fallait regarder dans les coulisses, il se passait des trucs, des choses. Là, il se passe toujours aussi des choses, mais un peu moins. Bref, elle avait un petit peu disparu de nos antennes. Et ben, la revoilà, Gilles, revoilà Nikki Cross. Et qu'est-ce qu'elle a en tête, Nikki Cross? Parce que là, on ne sait pas trop. Elle a tapé tout le monde.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle a tapé tout le monde. Elle est revenue avec très, très énervée. Hein. On a vu beaucoup ses dents serrées parce que très, très énervée. Et à la fin du match, quand Bayley a gagné, là, elle revient quand même encore pour faire un gros beatdown sur Bayley. Et puis, on voit qu'à la fin, donc c'est la dernière image, on la voit les dents serrées, là, très, très énervée. Donc là, Nikki A.S.H. pour Almost Super Hero, effectivement, c'est fini. Par contre, Completely Heal, j'ai l'impression que c'est la nouvelle Nikki Cross qui est en train d'arriver. Et ça peut être très sympa. Hein. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour la catcheuse, son énergie qui passait bien en face parce qu'elle tournait dans tous les sens, ça rebondissait, ça partait. Là, elle est, comme tu l'as dit, elle a changé ses outfits, elle est partie sur quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus mature aussi, même aussi au niveau de sa coupe de cheveux, etc. etc. Très sympa, vraiment super surpris de la voir. En plus, c'est quelqu'un que j'aime bien voir in-ring. Et puis là, ça ouvre plein de choses parce qu'elle est intervenue sur un match, en plus, un match dingue. Normalement, Bayley, quoi, c'est quelque chose qui peut se retrouver sur un main event pour la ceinture, quoi, sans aucun problème. Et elle arrive et elle met tout le monde par terre, quoi. Et donc, j'ai trouvé ça bien sympa parce que ça nous ouvre encore des portes. Avec des nouvelles histoires, des nouvelles feux, moi j'adore ça. J'adore qu'on me raconte des histoires.
Oui, on est là pour ça, on est là pour les histoires incroyables, pour être surpris. Et là, quelle surprise ce retour de Nikki Cross je ne sais pas, dans la title picture peut-être. Alors tu dis qu'elle est heel, oui, je serais tenté de dire.
Mais non, je suis d'accord avec toi.
Elle est hors face heel, là, ça va juste être Nikki Cross, la folle dingo qui fout le bordel, le chaos total. Et ça, c'est génial, ça on aime aussi, ce genre de personnage. Imprévisible, qui est totalement dans lequel elle est totalement à l'aise. Alors là, c'est son univers, le foot, le bordel.
Clairement,
c'est quelque chose qu'elle fait au petit déjeuner, je pense. Ça le fout le bordel. Déjà, toi, quand elle prépare le petit déj, est-ce qu'elle met les céréales ou le lait avant, après, elle fout tout en même temps.
Ou en même temps, tout dans la boîte, ou le lait dans la céréale.
Le lait dans la boîte de céréales, et puis elle mange la boîte, elle laisse les céréales à toi. Il y avait un moment, il y avait c'était pas un mime, mais un petit délire là, sur Internet où tu voyais des gens faire des vidéos où ils enchaînaient des choses complètement loufoques et le but c'était fais quelque chose auquel les gens ne s'attendent jamais, toi. Et donc tu voyais des mecs qui enchaînaient comme ça, c'était des sketchs où à chaque fois que tu t'attends à ce que le mec fasse un truc, en fait non, il faut autre chose, et ça partait dans des délires complètement stupides. C'était du grand n'importe quoi. Bah là, Nikki
le Nikki Cross Challenge.
Ah oui, c'est ça, exactement, hashtag Nikki Cross Challenge. Incroyable, Nikki Cross est de retour, et rien que pour ça, mon bon Géliel, je suis impatient d'entendre ton mot de la fin pour cet épisode de Monday Night Raw. Si tu veux bien nous partager ton flop, top et ta note, s'il te plaît.
J'ai apprécié, particulièrement apprécié et l'opener et le main event. Vu que je suis en premier, je vais prendre le retour de Nikki Cross en top. C'était pas très dur.
Oui, évidemment.
Mais bien amené, techniquement, comme tu l'as dit, bien filmé, parce qu'il y a des fois, soit on voit le public qui tourne la tête en faisant « Oh !»
Oui,
il se passe quelque chose, et tout le monde a compris qu'il allait se passer quelque chose. Eh ben non, là, on l'a pas vu du tout, et donc, du coup, on a vu une espèce de furie violette sauter sur tout le monde, et l'arbitre, ça aussi, j'ai trouvé sympa que l'arbitre soit dans le truc, quoi.
Ouais.
Ça aussi, ça rajoute un peu la folie du machin.
Mm.
Donc, ce top, il ira pour le retour de Nikki Cross. Sinon, le flop, je suis un peu embêté. Alors, je vais mettre sur la répartition. J'ai vu beaucoup, il y avait beaucoup de choses en coulisses et ça m'a un peu coupé. J'aurais mis un peu moins de coulisses. Voilà. Il y a des promos qui auraient pu se faire peut-être in-ring plutôt qu'en coulisses, mais c'est un petit flop, on va dire un petit flop. Et puis finalement, tu vois, c'est marrant parce que le souvenir, je ne l'ai pas vu il n'y a pas longtemps, mais le souvenir que j'en avais était finalement moins fun que ce qu'on vient de partager là lors de cette review. Et du coup, je vais remonter ma note que j'avais anticipée.
C'est le piège, Géliel, qu'on fait l'analyse et qu'on passe un bon moment. On se retrouve des fois, moi, je, après l'enregistrement, je fais « Ah, je me suis fait avoir, j'ai emporté par... » Par le bon moment.
En fait, c'était de la merde, mais on s'est marré.
C'était une grosse daube. Totalement rigolé. C'est ça. C'est l'esprit.
Bon, alors, et donc, je vais rester dans l'esprit. 3-5 pour moi, j'ai passé un bon moment. Voilà.
Géliel pensait mettre un 2 et avec 3-5.
Exactement.
Il s'est fait embrouiller. Demain, cette hangover, tu vas faire « Ok, mais qu'est-ce que j'ai fait là pendant cette... »
Oh non, de l'eau.
Je me suis fait avoir. Écoute, je suis un peu comme toi. J'ai pas de gros flop. Au début, j'étais un petit peu embêté avec ce main event. Toi, je me suis dit, on se retrouve encore avec un 3v1, tu sais, cette faction là de Bailey qui a du mal à s'en sortir. Mais finalement, l'arrivée de Nikki Cross, qui évidemment est mon top, je peux pas ne pas le donner à ce retour complètement chaotique et qui va réveiller. En tout cas, moi, ça a réveillé la division féminine pendant 10 minutes, toi. Ça a bien réveillé la division féminine pendant 10 minutes. Écoute, moi j'ai pas de gros flop. J'aime pas taper sur les absents, mais j'aurais bien aimé voir Bobby aussi.
Ah, oui.
Une petite séquence. Toi tu dis ouais, on a peut-être les séquences backstage, peut-être on avait trop et tout. On a bien rigolé, mais moi Bobby il me manque hein, quand il est pas là. J'aurais bien aimé voir Bobby, mais sinon, y avait rien à acheter. Finalement, c'était plutôt bien rythmé, comme tu l'as dit. On a plutôt bien utilisé le milieu du show, notamment avec ce 2v2 avec l'Alpha Academy, Riddle et notre ami Elias. Donc, c'était plutôt bien cousu. Même si on a voyagé, on a fait des sauts de temps. Là, on a joué à Code Quantum là, dans l'analyse de ce show.
Oh, bravo!
Mais allez, on balance un gros bravo. Donc écoute, voilà mon flop, voilà mon top. Et pour ma note, je pense que je vais donner tout comme toi un 3,5. C'était un épisode plutôt bien retroussé et avec quelques surprises. Et puis on a bien rigolé. Je trouvais qu'on s'était bien marré dans cet épisode et que ça fait bien. On arrive à Crown Jewel, tout est déjà prêt donc. Il n'y a plus grand chose, et puis les mecs qui vont à Crown Jewel, ils sont pas là. Les mecs qui vont pas à Crown Jewel, ils s'occupent.
Ils nous occupent bien, nous divertissant.
Ouais. Donc 3,5 également pour moi pour cet épisode de mon Day Night Raw. Allez, on vous rappelle que Catch Up, c'est le podcast qui analyse tous les shows de la WWE chaque semaine. Pour ne manquer aucun épisode, il suffit de vous abonner et c'est gratuit sur toutes les plateformes habituelles de podcast et également sur YouTube. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire votre top, votre flop et votre note. Les réseaux sociaux, c'est Catchup CDC, Twitter, Facebook et Instagram. Le lien vers notre Discord est dans la description. Je te remercie, Géliel, pour ce duo totalement inédit, totalement chaotique.
Eh ben écoute, je te remercie également, IRM, pour ce hosting et cette présentation. Et puis, ce bon moment passé à reviewer ce Raw.
Eh oui, appelez-moi Stone Cold Steve Austin, c'est mon nouveau nickname. Eh oui, on est comme ça. On vous donne rendez-vous très bientôt. Là. D'ici là, on a évidemment le SmackDown qui arrive. Il y a du NXT là, qui est tombé. J'ai regardé cet épisode d'NXT, moi, je trouvais ça pas mal. Il y a eu encore des surprises, beaucoup de surprises à NXT. Si vous avez aimé ce qui s'est passé à Monday Night Raw, si vous avez bien rigolé avec ce qui s'est passé à Monday Night Raw, je vous invite à regarder ce qui s'est passé à NXT. Je n'en dirai pas plus. D'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Salut, salut.
L'objectif, c'est de finir avant que papy n'arrive dans le studio.